Décryptage, Charlotte de Rouen.
Dans la série télévisée Téhéran, une espionne israélienne est envoyée en Iran où elle doit coordonner une attaque contre une centrale nucléaire. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, la réalité a dépassé la fiction. Des agents du Mossad se sont infiltrés sur le territoire iranien sans être repérés. Drones suicides, roquettes contre les systèmes de défense aérienne, attaques contre des cibles nucléaires et des caciques du régime. Une opération d'envergure menée par l'armée israélienne et le célèbre service de renseignement. Alors, comment expliquer la redoutable efficacité du Mossad ? On va tenter d'y voir plus clair ce soir dans Décryptage. Et on en parle avec vous, Vincent Nouzi, journaliste d'investigation, spécialiste du renseignement. Bonsoir.
Bonsoir.
À mes côtés également en studio, Yvonique de Noël. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste du renseignement, auteur des guerres secrètes du Mossad, paru chez Nouveau Monde Éditions. Alors pour la première fois ces derniers jours, le Mossad a filmé et diffusé les vidéos de cette opération, notamment les images de deux agents, le visage flouté, en train de préparer une attaque. Un moyen d'afficher leur supériorité, Yvonique de Noël, et de porter un coup supplémentaire à leur adversaire ?
Je dirais que dans les opérations qui sont en cours, la communication occupe une part très importante. Il ne s'agit pas seulement de se faire valoir, mais il s'agit également d'intimider l'ennemi, de semer le doute, de faire comprendre que Israël a déjà gagné. Ça permet également de faciliter des recrutements, ça permet éventuellement de susciter des défections et accessoirement, ça permet également de booster le moral des Israéliens.
Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur le temps qu'il a fallu pour préparer cette opération et les moyens déployés ?
En fait, il y a plusieurs opérations simultanées. Certaines sont en préparation depuis des semaines, d'autres depuis des mois. Mais je dirais que l'ensemble de ce qui s'est passé ces derniers jours en Iran est le résultat d'une expérience de plus de 20 ans d'action secrète du Mossad en Iran, puisque depuis ces deux dernières décennies, le Mossad a été chargé de ralentir, de saboter le plus possible le programme nucléaire iranien. Donc c'est passé par des assassinats de scientifiques, c'est passé également par la fameuse opération Stuxnet, où on a introduit un virus informatique dans les ordinateurs des centres nucléaires iraniens. Alors ensuite, le virus s'est échappé et a fait d'autres dégâts. C'est passé par tout un tas d'opérations, par des recrutements d'Iraniens, puisque le Mossad, même s'il opère en Iran, prend garde de ne pas envoyer de ressortissants israéliens, ou en tout cas, quand il y en a qui entrent en Iran, ils ressortent le plus vite possible. Donc c'est un ensemble d'opérations qui a mobilisé des centaines de personnes depuis des mois. Évidemment, c'est une réussite spectaculaire. On pense évidemment aux opérations qui ont eu lieu il y a 10 mois contre le Hezbollah. Donc on voit en quelque sorte l'aboutissement d'une guerre secrète contre l'Iran et contre ses proxys, dont le Hezbollah, qui est en route depuis 20-25 ans et même plus.
Alors, on reviendra sur ce qui s'est passé au Liban, mais pour l'heure, Vincent Nouzi, est-ce qu'on peut dire comment cette opération en Iran elle a été rendue possible ? Yvonique de Noël l'évoquait, ils ont recruté des Iraniens.
Oui, c'est une des grandes spécificités du Mossad de pouvoir s'infiltrer, de pouvoir recruter, parfois d'ailleurs sous faux drapeau, c'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'ils travaillent pour le Mossad, mais ils travaillent pour le Mossad. Ça peut être des hommes d'affaires, du bazar, de Téhéran, ça peut être des voyageurs, ça peut être des étudiants, ça peut être évidemment des soldats et principalement des cadres de ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, c'est-à-dire l'armée d'élite du régime. Et on sait que ce sont des régimes qui sont extrêmement corrompus sous la façade idéologique islamiste radicale. Il y a une énorme corruption, donc les Israéliens ont tenté depuis une vingtaine d'années de recruter des sources en leur faisant miroiter beaucoup d'argent, notamment peut y avoir un recrutement d'opposants, bien sûr, hein, dans le système, mais surtout, tous les moyens sont employés par le Mossad, y compris des grosses valises de billets pour recruter des grands chefs. Et ça a été le cas, puisque ça leur a permis, évidemment, depuis, comme le disait Yannick de Noël, depuis une vingtaine d'années, ils ont à la fois, dans une première séquence, percé un certain nombre de secrets de communication, les communications du commandement militaire iranien, donc c'est extrêmement important. Ça a commencé dès 2004, par une opération qu'on appelle l'opération Daniel. Et puis ensuite, c'était ces recrutements de sources de manière extrêmement intensive, qui ont été d'ailleurs déployés par un des anciens directeurs du Mossad, qui a été nommé en 2016, Yossi Cohen, par Benjamin Netanyahou. Auparavant, les deux directeurs successifs du Mossad s'étaient opposés fermement à tout bombardement, toute opération trop visible en Iran. Ils préféraient l'action secrète. Mmh. Et puis, à partir de 2016, Benjamin Netanyahou ayant eu ses oppositions, il a nommé deux proches successivement, Yossi Cohen et puis maintenant David Barnea, qui sont des spécialistes de l'Iran. Et le premier était spécialiste du recrutement des sources. C'est lui qui a mis au point le système de recrutement des sources au sein des gardiens des révolutions.
Est-ce qu'on a une idée de la manière dont ils recrutent ? Comment ils font concrètement ?
Ben, vous savez, c'est extrêmement facile, entre guillemets, notamment à Dubaï, qui est une espèce de plateforme assez de hub, en gros, de tous les espions de la planète. Et il y a beaucoup d'Iraniens qui font des affaires là-bas, et notamment, ils avaient recruté, par exemple, un ingénieur qui travaillait dans le système de téléphonie, par exemple. Donc c'est lui, il allait très souvent en Iran et il a progressivement ramené un certain nombre d'informations. Il a été malheureusement découvert par les Iraniens et jugé et exécuté par les Iraniens. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, chacun montre ce qu'il sait de l'autre. Et c'est une des grandes spécificités du Mossad de faire, et souvent de faire savoir, pour intimider évidemment l'adversaire. En l'occurrence, ces vidéos dont vous parliez sont faites évidemment pour montrer qu'il a une toute-puissance, qu'il peut frapper là où il veut, quand il veut et qui il veut. Il faut bien voir que cette opération de ces derniers jours est une opération qui nécessite une combinaison complète, à la fois de renseignements techniques, c'est-à-dire le percement des communications du commandement iranien, d'une part, ensuite la géolocalisation, y compris avec des agents sur place pour savoir où sont les personnes que l'on souhaite évidemment atteindre, que ce soit les généraux, le commandement des gardiens de la révolution ou les scientifiques iraniens. Et puis ensuite, il faut avoir une cartographie complète de l'ensemble des sites militaires que l'on souhaite, et des sites nucléaires qui ont souhaité attaquer, donc ce qui nécessite à la fois de l'image satellite, peut-être de l'aide des Américains sur le sujet, ça on ne sait pas trop exactement, mais voilà, donc ça demande pas seulement les moyens du Mossad, mais aussi une combinaison de moyens beaucoup plus forte, humain et technique en matière de renseignement.
Il faut préciser, effectivement, parce qu'on a toujours tendance, le Mossad étant un très bon communicant, à lui attribuer absolument toutes les opérations secrètes. Il faut préciser aussi que dans ces attaques, le renseignement militaire, l'AMAN, joue un rôle particulièrement important. Et comme le soulignait Vincent Nouzi, tout ce qui relève des écoutes, des satellites, etc., est opéré. Il y a des actions cyber en ce moment. Il y a un opérateur de crypto-monnaie qui a été attaqué aujourd'hui. Beaucoup de ces opérations relèvent de l'unité 8200, bien connue de cyberguerre du renseignement militaire. Donc en réalité, on a des poupées russes d'opérateurs qui agissent de concert. Alors il y a parfois des frictions, des tensions entre ces services, mais je dirais que depuis les attaques du 7 octobre, il y a vraiment une union sacrée et tout ce qui peut, je dirais, susciter des différends, et en particulier le post-mortem, l'analyse de l'échec du renseignement israélien face à l'attaque du Hamas, tout ça a été mis de côté, non pas que ça ne doive pas revenir plus tard et que ça ne doive pas susciter des débats et des règlements de compte, mais en tout cas, en attendant, les différents services israéliens font face de manière extrêmement soudée.
Et alors, pour en revenir plus spécifiquement au Mossad, vous le qualifiez, Yvonique de Noël, de couteau suisse du renseignement. Pourquoi ?
parce que depuis sa création et compte tenu de l'histoire très spécifique d'Israël, le Mossad a été chargé des tâches les plus diverses et de tâches qui souvent ne relèvent pas dans d'autres pays des services de renseignement. Par exemple, lors de la révolution iranienne, lors de la révolution islamique en 1979 et dans les mois qui ont suivi, le Mossad a été chargé d'exfiltrer une partie des juifs iraniens qui ne souhaitaient pas rester dans le pays. Ça s'est fait par des moyens parfois baroques, également par de la corruption, mais ça a été toute une opération assez considérable. Le Mossad est également chargé de faire de la diplomatie secrète avec des entités avec lesquelles, normalement, officiellement, Israël ne négocie pas, n'a pas de relations diplomatiques. Par exemple, les négociations pour les otages, pour la libération des otages détenus encore par le Hamas, passent pour l'essentiel par le patron du Mossad. Donc il y a toute une panoplie de missions. On a l'impression que voilà, le Mossad est une espèce d'entité un peu magique et qu'on peut lui demander tout et n'importe quoi. Alors, ce qui fait que de temps en temps, il échoue parce que le nombre de missions qui lui sont assignées, la pression permanente, les crises successives qu'ils ont à gérer, rend la tâche extrêmement difficile.
C'est vrai qu'on connaît le Mossad pour ses opérations très audacieuses, souvent dignes de films d'espionnage. Hein. L'enlèvement du dignitaire nazi Adolf Eichmann en Argentine, le sauvetage de plusieurs milliers de juifs éthiopiens menacés dans les années 80. Cette audace, elle dérape aussi parfois. Vincent Nouzi, il y a eu des opérations ratées. Est-ce que vous pouvez nous en parler, de l'une d'elles peut-être ?
Il y a eu une première erreur d'homme, par exemple, sur après la fameuse attentat contre les athlètes israéliens au JO de Munich, qui a cette vengeance du Mossad pour aller chercher tous ceux qui ont pu, de près ou de loin, participer à Septembre Noir et donc à cet attentat de Munich. Et donc, il y a eu une erreur d'homonymie, par exemple, un Marocain qui a été tué, un serveur de bar qui a été tué dans les pays, je ne sais plus si c'est en Norvège ou en Suède,
j'ai un petit Norvège.
Doute, d'un coup, en Norvège, c'est ça, et qui a été pris pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc ils ont, d'ailleurs, il y a eu des agents du Mossad, une agente d'ailleurs qui a été arrêtée en Norvège. Il y a eu un jugement, le Mossad a dû payer des indemnités à la famille de cette personne qui avait été tuée malencontreusement. Donc, ça, c'est un exemple d'une erreur des années 70. Il y en a une autre dans les années 2010 qui est une opération menée à Dubaï, si ma mémoire est bonne, et dans laquelle, effectivement, les Israéliens sont rentrés dans un hôtel pour assassiner un dignitaire. J'ai un doute si c'était quelqu'un du Hezbollah ou du Hamas.
Du Hamas.
Mais en tout cas, du Hamas, voilà. Merci Yannick. Et en fait, ils ont laissé trop de traces, si je peux dire. Donc, ils ont été reconnus sur des caméras de surveillance. Et là le pouvoir de Dubaï a montré les images vidéo. Donc, c'est une catastrophe absolue pour le Mossad d'être identifié et d'être considéré comme ayant échoué dans cette manœuvre et d'avoir été trop facilement reconnu. Donc, ils ne sont pas infaillibles. Ils font parfois des énormes erreurs. Et évidemment, l'attaque du 7 octobre, qu'ils n'ont pas vu venir, pas plus que le Shin Bet, le renseignement intérieur, ou l'Aman, le renseignement militaire, ou du moins les messages n'ont pas été suffisamment forts pour pouvoir convaincre le pouvoir politique, donc Benjamin Netanyahou, d'agir en prévention. Ça a été un tel niveau d'échec du niveau du 11 septembre pour les Américains que, évidemment, la stratégie de la surprise tactique, qui a été celle menée notamment avec ces fameux beepers piégés au Hezbollah, qui était le prélude à des bombardements et à des assassinats ciblés, et finalement à l'assassinat du numéro 1 du Hezbollah, Nasrallah. Donc, quelque part, pour moi, c'était une forme de répétition générale avant de s'attaquer à un plus gros morceau qui est évidemment l'Iran aujourd'hui, avec peut-être la question de savoir si, pour l'instant, ils ont tapé quand même des chefs d'état-major, des chefs du renseignement, donc ils ont potentiellement la possibilité de taper le guide suprême. Et donc la question se pose, est-ce que les Américains vont laisser faire, est-ce qu'ils vont le faire eux-mêmes, etc. Donc, mais peut-être qu'ils ont testé les limites de leur propre système, qu'ils voient que ça marche, que c'est efficace, que la surprise a fonctionné, et en l'occurrence, le 13 juin, cela a aussi fonctionné. Donc, quelque part, ils sont capables d'aller encore plus loin maintenant qu'ils ont, en gros, les coups des franches, et retrouver une partie du moral perdu le 7 octobre 23.
Yvonique de Noël, est-ce qu'on a une idée justement de jusqu'où pourraient aller les Israéliens en Iran jusqu'à tuer l'ayatollah Khamenei?
Je pense que ça fait partie des objectifs et je pense également que Benjamin Netanyahou regarde jusqu'où il peut aller et regarde si les événements lui sont favorables. Donc je prolonge effectivement l'analyse de Vincent Nouzi. On est face à un responsable politique qui était plutôt averse au risque depuis quelques années, qui était plutôt méfiant vis-à-vis de ses services, vis-à-vis du Mossad, parce qu'il a cette relation compliquée avec le Mossad. Plusieurs anciens patrons du Mossad sont devenus très critiques vis-à-vis de lui. Il est nerveux d'une manière générale, Benjamin Netanyahou, vis-à-vis de ses patrons du renseignement. Mais là, il voit que ça marche et surtout, ça lui apporte un énorme ballon d'oxygène politique. Parce que sa situation était extrêmement difficile. Il n'était pas sûr du tout de pouvoir se maintenir au pouvoir. Et là, on voit depuis quelques jours qu'en Israël, il prend dans l'opinion publique, tout le monde dit « bon, bah, on peut ne pas l'aimer, mais on lui reconnaît d'avoir réussi un coup de maître ». Alors évidemment, si ça avait raté, il expliquerait que voilà, c'est la faute de ses services de renseignement. Donc, je pense que l'élimination de Khamenei est recherchée, souhaitée, tout comme ils ont mis un petit peu de temps avant d'éliminer Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, mais que Netanyahou regarde aussi si Trump le laisse faire. Et on a un Trump extraordinairement qui fait semblant d'être au-dessus de la mêlée et de vouloir transformer tout ça en succès diplomatique, mais qui en réalité, vis-à-vis de Netanyahou comme vis-à-vis de Poutine, n'est pas l'homme fort qu'il souhaite apparaître, sembler être. Justement, il ne sait pas quoi faire, tout simplement. Alors il peut effectivement s'amuser à dire « vous allez voir, je ne sais pas, peut-être que je vais le faire, peut-être que je ne vais pas le faire ». En réalité, il est un petit peu coincé dans ses propres contradictions parce que taper, c'est aller contre ce que veut une partie de la base MAGA qui ne veut plus voir l'armée américaine intervenir, plus de guerre à l'étranger, etc. Et ne pas taper, c'est donner l'impression qu'on suit un peu passivement les événements et qu'on n'est pas un si bon allié d'Israël que ça. Donc c'est effectivement aujourd'hui Netanyahou qui mène le jeu.
Peut-être pour revenir aussi sur le Mossad, Vincent Nouzi, ce qui fait peut-être la force de ce service de renseignement, c'est aussi sa pugnacité, puisqu'on l'a vu, il traque ce qu'il considère comme les cerveaux des attaques jusqu'au bout, même si ça s'étale sur des années. On l'a vu pour les attentats qui ont visé les sportifs israéliens à Munich, comme pour les responsables du 7 octobre.
Oui, tout à fait. Il y a une volonté, alors c'est ce qu'on appelle la politique des assassinés ciblés hein, du Mossad, qui est très connue avec des commandos, des Kidon, etc. Et ça avait démarré évidemment avant les JO de Munich, mais ça a été, si je puis dire, mis à l'écran par le film de Spielberg qui s'appelle Munich, quand tout le monde se souvient de ce commando, qui va effectivement traquer les différents responsables palestiniens aux quatre coins de l'Europe. Alors depuis, effectivement, ça s'est amplifié. Si on lit le très bon ouvrage du journaliste israélien qui travaille pour le New York Times, qui s'appelle Ronan Bergman, qui est « Lève-toi et tu le premier », qui est une histoire des assassinats ciblés par les Israéliens depuis le début de la guerre, c'est le pays qui en fait le plus sur la planète. Donc ils ont une expérience à la fois sur le traquer, faire savoir que l'on se traque, faire savoir que l'on se venge systématiquement, voire plus. Et évidemment, lorsqu'il y a eu le 7 octobre, évidemment, ils ont décidé de décimer tous les chefs du Hamas. Et comme le Hezbollah est devenu de plus en plus encombrant au Liban, ils ont décidé de liquider tous les chefs du Hezbollah. Et donc, c'est la même chose pour les Iraniens. Bon, il faut se souvenir qu'en 2020, par exemple, ils ont quand même envoyé un drone automatique, si je peux dire, un drone tueur guidé par intelligence artificielle pour aller tuer en Iran un haut responsable, un haut physicien du programme nucléaire. Donc ils sont extrêmement habitués et très audacieux en matière d'assassinat ciblé. Rien ne les arrête, si je peux dire.
C'est vrai que souvent ces scénarios sont dignes de films d'anticipation, d'espionnage, on le disait. Merci beaucoup Vincent Nouzi d'avoir été avec nous ce soir, journaliste d'investigation, spécialiste du renseignement. Merci à vous également Yvonique de Noël, historien, auteur des Guerres secrètes du Mossad. C'est paru chez Nouveau Monde Éditions. À la réalisation ce soir, Valentin Vanner. Sigrid Azeroual m'a aidé à préparer cette émission. Merci également à Chantal Laureau, à la rédaction en chef dans quelques instants. Restez avec nous sur RFI, place à Afrique Soir.